RCF, il est 19h. RCF, près de chez vous, Fabrice Gironet.
Et à 19h cette semaine, nous avons rendez-vous avec la playlist chrétienne d'RCF Reims-Ardennes en partenariat avec Top Music. C'est parti pour 20 minutes.
RCF, la playlist chrétienne en partenariat avec Top Music.
Tu invites ceux qui sont fatigués à décharger leur fardeau sur toi. Tu nous promets ta présence et ta paix. Et pour
RCF, la playlist. La playlist chrétienne, RCF.
Dans une journée ordinaire, la joie du Seigneur est ma force. Quand soudain tout part de travers, la joie du Seigneur est ma force. Quand je fête une bonne nouvelle, la joie du Seigneur est ma force. Même sans voir le la joie du Seigneur est ma force. Chaque jour, j'ai mille raisons de te louer. Ton amour ne cesse de m'inonder. Grâce à toi, mon cœur sait pourquoi il bat. Oh, 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 ma force est dans ta joie. Chaque jour, mille raisons de te louer. Ton amour ne cesse de m'inonder. Grâce à toi, mon cœur sait pourquoi. We'll
attentive à l'ouvrage. La joie du Seigneur est ma force.
C'est pourquoi il bat. Oh, 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 ma force est dans ta joie. Chaque jour, mille raisons de te louer. Ton amour ne cesse de m'inonder. Grâce à toi, mon cœur sait pourquoi il bat. Oh, 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 ma force est dans ta joie.
RCF, le meilleur de la musique chrétienne.
Mon passé, mon présent, mon futur. et que je frappe. Aujourd'hui, je veux t'ouvrir mon cœur à ta présence, à ton amour.
J'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. J'ouvre mon cœur, brise l'amour. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur.
Vous écoutez RCF à Belley sur le 92.8.
La vie que tu offres fait battre à nouveau mon cœur. Ton amour me restaure. Oui, je suis plus que vainqueur.
Thank you.
La playlist chrétienne, RCF.
Et prochain rendez-vous avec elle, la playlist chrétienne d'RCF Reims-Ardennes demain à 19h. Mais tout de suite, nous avons rendez-vous avec la mode et avec Nina Aldea.
À la pointe de la mode, une émission animée par Nina Aldea. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir sur À la pointe de la mode, une émission au sein de laquelle nous explorons et déchiffrons ensemble le monde de la mode. À l'occasion du lancement de l'exposition Les fleurs d'Yves Saint-Laurent, le 20 septembre dernier jusqu'au 4 mai, au musée Yves Saint-Laurent à Paris, j'ai décidé de vous raconter l'histoire de ce couturier légendaire. L'enfance d'Yves a baigné dans une lumière radieuse et il a acquis aux yeux de sa famille le statut d'un héros. C'est à Oran, en Algérie, qu'Yves Mathieu Saint-Laurent est né le 1er juillet 1936. Ce jeune garçon timide grandit en plein cœur de la cité oranaise, accompagné de ses deux sœurs. À l'âge de 12 ans, le jeune Yves assiste à une représentation de l'École des femmes de Molière au Théâtre d'Oran. Ce spectacle a eu un impact considérable sur ses inspirations esthétiques naissantes. Une véritable révélation pour ce dernier. Par la suite, ses talents de dessinateur se manifestent très tôt. Il explore le monde de la mode, du dessin et de la couture qui deviennent rapidement des échappatoires afin d'oublier les humiliations qu'il rencontre à l'école en raison de son style vestimentaire jugé inhabituel. Son baccalauréat en poche, Yves Saint-Laurent poursuit des cours de dessin à la Chambre syndicale de la haute couture à Paris. En 1953, le jeune couturier repère une annonce dans Paris Match pour le concours annuel du secrétariat de la laine présidé par de grands couturiers. Il envoie de ce fait trois croquis, une robe, un tailleur et un manteau, et gagne le troisième prix de la robe. Deux ans plus tard, le petit prince de la haute couture fait la connaissance de Michel Brunoff, une rencontre décisive qui lui permet de ce fait de faire ses débuts chez le célèbre Christian Dior en tant qu'assistant modéliste. Yves Saint-Laurent est dès lors officiellement présenté comme le succédeur de Christian Dior, conformément au choix de ce dernier. Jamais un si grand couturier n'avait dirigé une maison de couture, et d'autant plus qu'il s'agissait de la maison la plus importante au monde, puisque Dior exportait à ce moment-là plus de 50% de la haute couture française. D'une facilité inouïe, le couturier évolue rapidement au sein de cette maison qu'il affectionne. Seulement après 6 collections dessinées pour Dior, Yves Saint-Laurent se voit contraint de quitter ses fonctions, ce dernier étant appelé à faire son service militaire. Terrifié par les horreurs de la guerre, il sera hospitalisé pour dépression. En juillet 1961, Yves Saint-Laurent, en collaboration avec Pierre Berger qu'il a rencontré en 1958, décide de fonder sa propre maison de couture. Avec l'appui de 3 anciens collaborateurs de chez Dior, ainsi que le soutien financier d'un milliardaire américain, le couturier présente 5 mois plus tard sa première collection. C'est un véritable triomphe pour la maison, notamment grâce à la collection Mondrian en juillet 1965. À partir de 1966, inspiré par la mode androgyne naissante de l'époque, Yves Saint-Laurent invente la femme moderne en réinterprétant les classiques du vestiaire masculin. Le premier smoking voit le jour, ainsi que la saharienne et le premier tailleur-pantalon. Les collections de ce dernier ne cessant d'éblouir le monde de la mode, Yves décide en 1966 de se rendre au Maroc pour la première fois. Le coup de foudre est imminent et il décide de se procurer une maison dans la médina de Marrakech afin de s'y rendre régulièrement. À partir de ce moment, il s'y rendra plusieurs fois par an pour y dessiner ses collections. C'est d'ailleurs au Maroc qu'il dira avoir appris la couleur. Considéré comme l'un des grands couturiers de ce siècle, Yves Saint-Laurent, secret, lyrique et tourmenté, offre dans son œuvre l'illustration de grandes options esthétiques qui ont marqué les générations. Le 1er juin 2001, ce couturier de légende s'est éteint, laissant derrière lui un héritage artistique de grande envergure. C'est déjà la fin de cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'À la pointe de la mode. J'espère que celui-ci vous a plu. À bientôt pour de nouvelles histoires.
Nina Aldea à la pointe de la mode. C'est une nouvelle chronique que vous découvrez depuis le début de ce mois de septembre. Quant à cette chronique, celle qui va suivre, vous en avez maintenant l'habitude, c'est celle de Michel Royer en direct de l'histoire. Quel est le thème cette semaine d'en direct de l'histoire, Michel ?
Je commence à évoquer cette semaine la légende médiévale du royaume du prêtre Jean. La figure du prêtre Jean apparaît pour la première fois au milieu du XIIe siècle, alors que les chrétientés orientales reculent devant l'avance musulmane. Une ambassade arménienne venue en Occident chercher du secours raconte qu'un certain prêtre Jean vivrait en Asie, et serait à la fois un roi et un prêtre chrétien. Elle rajoute aussi qu'il s'agirait d'un descendant des rois mages et qu'il serait immensément riche. Au XIXe siècle, les historiens ont mis en évidence que l'événement réel qui a probablement inspiré ce récit est une victoire qu'un général chinois a remportée en 1141 contre les musulmans. Mais la vérité historique n'est pas du tout ce qui intéresse le public au Moyen Âge. Comme le montre deux décennies plus tard, le succès considérable que connaît une lettre attribuée à ce fameux prêtre Jean, lequel se présente comme investi par la grâce du Christ lui-même d'un pouvoir à la fois royal et sacerdotal. En fait, cette lettre est un faux, probablement fabriqué dans l'entourage de l'empereur germanique, Frédéric Barberousse, qui est alors en lutte avec la papauté pour savoir lequel, du pouvoir temporel ou du pouvoir spirituel, doit l'emporter sur l'autre. Dans cette perspective, un prêtre Jean, qui serait à la fois roi et prêtre, va à l'évidence dans le sens des prétentions impériales. Mais si l'opinion se passionne autant pour le prêtre Jean, c'est surtout parce qu'il est censé régner sur un royaume fabuleux. En 1245, une mission chargée de trouver ce fameux souverain est envoyée en direction de la Tartarie, c'est-à-dire des terres qui dépendent de l'Empire mongol. La mission, au départ, croit avoir réussi car elle rencontre effectivement des chrétiens. Mais très vite, elle déchante en constatant que ces chrétiens, dont on sait aujourd'hui qu'ils sont là depuis la fin de l'Antiquité, sont adeptes de l'hérésie nestorienne, qui ne reconnaît pas la double nature divine et humaine du Christ, et surtout, beaucoup plus grave, qu'ils sont très peu nombreux. Du coup, le doute s'installe, et sans remettre formellement en cause l'existence du roi Jean, l'étendue de sa puissance et de sa richesse est revue à la baisse. Le roi fabuleux devient le simple chef d'une tribu de pasteurs nomades. Un peu plus tard, les Européens sont confrontés à une réalité encore plus délicate à expliquer, quand les Mongols, dont certains ont fait des descendants du prêtre Jean, se lancent dans une politique de conquête menaçante. Malgré quelques chroniqueurs qui essayent d'expliquer tant bien que mal l'avance des Mongols par leur désir de retrouver les reliques de leurs ancêtres, les rois mages, l'histoire du prêtre Jean et de son royaume semble maintenant une légende destinée à être rapidement oubliée. Or, contre toute attente, c'est le contraire qui se produit, puisqu'au début du XIVe siècle, l'intérêt pour le royaume du prêtre Jean connaît un extraordinaire renouveau, mais cette fois on le situe en Afrique et non plus en Asie.
Merci Michel Royer en direct de l'Histoire. La deuxième partie de cette chronique est à écouter la semaine prochaine sur RCF en Sardaigne.
RCF, près de chez vous, Fabrice Gironnet.
Écoute dans la nuit, Frédéric Join.
Qui est Saint Jean-Paul II pour vous? C'est la question que nous vous posons ce soir dans Écoute dans la nuit. Jean-Paul II fut un modèle de foi pour les catholiques et peut-être aussi pour les croyants du monde entier. Mais qui est réellement Jean-Paul II pour vous? Rejoignez-nous dans Écoute dans la nuit ce soir pour évoquer la figure de l'archevêque de Cracovie de 21h à 22h30.
Et cette semaine, nous parlons d'une foire aux livres dans les Ardennes à la loupe. C'est un rendez-vous hebdomadaire que nous donne Catherine Sequevin sur RCF en Sardaigne.
Les Ardennes à la loupe, une émission en partenariat avec les magasins Janteur, 19 Place du Cal à Charleville-Mézières, présentée par Catherine Sequevin.
Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui cette nouvelle émission Les Ardennes à la loupe est consacrée à la société Saint-Vincent de Paul qui organise sa foire aux livres le vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 octobre, donc salle de 9h à Charleville-Mézières. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir donc Étienne Maillot qui est président départemental de la société Saint-Vincent de Paul. Bonjour Étienne et merci d'avoir rejoint le studio de RCF Reims-Ardennes à Charleville-Mézières. Alors parlons tout d'abord du fondateur de la société de Saint-Vincent-de-Paul, parce que j'ai vu qu'on disait de Saint-Vincent-de-Paul.
Saint-Vincent-de-Paul, c'est la société Saint-Vincent-de-Paul.
Pas... Oui, mais sur votre dépliant de la foire au livre, j'ai peut-être marqué de Saint-Vincent-de-Paul. Ah. Voilà, j'ai bien fait attention. Frédéric Ozanam, qui est né à Milan en 1813, est mort à Marseille en septembre 1853. Il était professeur de littérature étrangère donc à la Sorbonne. et il a été béatifié en 1997 par le pape Jean-Paul II. Pour quelle raison cet étudiant extrêmement brillant donc, a-t-il fondé d'abord la conférence de la charité le 23 avril 1833, donc il avait 20 ans, et donc qui est devenue la société Saint-Vincent de Paul?
Je pense qu'il avait vu dans sa ville des pauvres et il a tenu absolument à leur venir en aide. À la base, c'était de l'aide alimentaire. Il a créé la première conférence et ensuite, ça s'est étendu dans le monde entier, en fait, maintenant.
Alors justement, la société est présente, vous venez de le dire, dans le monde entier, 150 pays, 800 000 bénévoles. Et en France, la société Saint-Vincent de Paul, forte de 17 000 bénévoles, est répartie dans 1000 équipes locales. Quelles sont les actions que mènent les bénévoles et à quels besoins répondent-elles?
Alors, on répond aux besoins alimentaires. On fait aussi de l'aide financière. Normalement, on doit faire de l'aide morale. Ça, malheureusement, c'est un peu compliqué parce qu'on a du mal à s'intégrer dans les foyers. C'est très compliqué et on y arrive parfois. Mais la base de la société Saint-Vincent de Paul, c'est de l'aide morale, essentiellement de l'aide et essayer d'apporter un peu de spiritualité dans la vie des personnes. Nous, on fait beaucoup d'aide alimentaire sur Charleville et beaucoup d'aide financière.
Parce que j'ai vu en préparant cette émission qu'effectivement, dès le départ, il me semble qu'en dehors de l'aide alimentaire, Frédéric Ozanam avait pour objectif d'aller visiter les personnes en très grande difficulté. Mmh. Et c'est vrai que ça doit être compliqué parce que, d'abord, il faut qu'il y ait une demande. Et pénétrer effectivement l'intimité dans les foyers, même les plus démunis, ça doit être très compliqué.
C'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup aussi beaucoup de honte de la part des personnes qui ne veulent pas montrer justement, et c'est très difficile d'entrer dans les foyers. Parfois on y arrive, des fois on voit des situations totalement catastrophiques, on n'est pas là pour juger nullement, mais c'est très compliqué effectivement.
Alors la société Saint-Vincent de Paul est l'une des plus anciennes associations de France, puisqu'elle a 180 ans, donc, au service des plus démunis. C'est une organisation catholique laïque, qui sont généralement à peu près, on ne va pas tous les détailler, mais les bénéficiaires de l'aide de la société Saint-Vincent de Paul. Je pense que vous devez avoir un pléthore de situations différentes.
On a malheureusement de plus en plus de jeunes. On a des personnes retraitées qui ont des retraites vraiment très petites et pour lesquelles on leur vient en aide. On a des réfugiés, on a toute nationalité, beaucoup de pays africains, des pays de l'Est aussi qui viennent. Vraiment un public très large.
Et vous n'êtes jamais dans le jugement?
Jamais.
Jamais.
Jamais. Surtout pas.
Pas de discrimination?
Non, absolument pas.
Religieuse,
non,
etc.
Non. Même dans nos bénévoles, on a des personnes qui ne sont pas de la confession chrétienne. Et il n'y a aucun problème. Il n'y a aucune discrimination.
Alors j'ai lu en préparant cette émission que l'ensemble des antennes locales fonctionne en totale autonomie financière. Oui. Pour y parvenir, vous avez créé donc cette foire aux livres dont on va parler, dont les bénéfices couvrent une grande partie, je crois, du budget.
Une bonne partie du budget, on va dire. Allez, les deux tiers de notre budget annuel viennent de la foire aux livres, effectivement. Alors, parce qu'on arrive à vendre à peu près 50 000 livres, à peu près, chaque année, avec un prix dérisoire autour de... Allez, le moins cher des livres est à 20 centimes, le plus cher, 5 euros, 10 euros pour les beaux ouvrages.
Mais ça reste quand même, effectivement, vous avez employé le mot dérisoire. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à un moment donné à augmenter un peu les prix? Ça, vous
non.
ne le souhaitez pas?
Non, parce que c'est notre marque de fabrique et on n'y tient pas. Parce qu'on a un grand, grand succès et on veut rester comme ça.
Et moi, pour y participer chaque année, oui, c'est vraiment un grand succès.
C'est pour ça que...
Vous y allez au tout début, d'ailleurs, si on veut trouver des choses intéressantes.
Les premiers clients, je crois qu'il y a beaucoup de bouquinistes de Paris qui viennent. Ouais. C'est les premiers clients. Ils viennent avec des caddies, ils repartent avec un nombre incalculable de livres. Et nous, ça nous arrange. Il y a même une personne l'année dernière, on avait vendu des encyclopédies sur Charles de Gaulle avec des écussons en bronze incrustés dans le livre. On vendait les 3 tomes 5 euros. Il me dit, mais vous êtes des grands malades. On lui a dit, donnez plus si vous voulez.
Ah oui, vous pouvez toujours
mais
faire
nous,
un don,
bien sûr. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que ça parte.
Donc, vous l'avez dit, c'est des milliers de livres, hein, puisque cette année, vous avez affiché les 50 000 ouvrages
proposés
à la vente. Et parfois, certains, notamment certains ouvrages de littérature régionale, sont des pépites. Moi, on a trouvé des trucs absolument extraordinaires.
Ah, oui, oui,
alors, d'où viennent ces livres? Car chaque année, la performance, bah, c'est de renouveler complètement le stock.
Tout au long de l'année, on collecte, hein, rue du Metz, sous la basilique, au bout de la rue, au fond à gauche. Et donc, les mardis matin et jeudi matin, on a une équipe de bénévoles qui collecte des livres. On peut les apporter à tout
et
moment.
Vous prenez tout à partir du moment où c'est en bon état.
Voilà.
Mais en littérature régionale, il y a des choses absolument extraordinaires qui ne sont pas toujours en bon état. Pourquoi vous les confiez à vous et pas forcément à un libraire d'occasion qui pourrait les remettre en état? C'est quoi la volonté de donner
Moi, je pense que c'est de faire une bonne action, je pense, avant tout. Puis on commence à être connu quand même, donc notre foire aux livres a une réputation locale importante maintenant. Donc oui, beaucoup de personnes...
En préparant l'émission, je n'ai pas vu... Quelle édition c'est maintenant?
La 19e.
Voilà.
Ça, c'est la 19e. On prépare la 20e pour l'année prochaine.
Bien sûr, mais là, on se reverra alors à ce moment-là.
Sans doute. Hein. On va essayer de faire quelque chose de...
Alors, je crois savoir aussi que vous avez un magasin de vente de vêtements.
Oui.
Ces ventes contribuent, je pense aussi, donc à votre budget. Et ce qui permet de donner un coup de pouce financier, parfois, à des personnes pour qu'elles puissent sortir de la cistana. Comment sont étudiées? Parce que là, on a affaire à de l'argent. C'est un petit peu différent que de vendre des vêtements ou même vendre des livres. Comment sont étudiés les dossiers de demande comme ça, de coups de pouce?
Alors déjà, première chose, on demande que les personnes soient envoyées par une assistante sociale. Déjà qu'il y a eu une pré-étude de fait par l'assistante sociale. Quand ils ont fait épuiser tous les recours officiels, je vais dire style CCAS et tout ça, nous on intervient en dernier recours lorsqu'il n'y a plus d'autres recours qu'une association. Donc les assistantes sociales nous connaissent bien maintenant et nous téléphonent régulièrement, tous les jours.
Et vous avez beaucoup de demandes, je suppose.
On a beaucoup de demandes et on n'accepte pas toujours, hein, parce que des fois, s'il y a des personnes qui ont des revenus qui sont suffisants, ben on essaye de s'arranger, mettons, si c'est l'EDF ou si c'est le gaz, ben on essaye de s'arranger pour échelonner la dette, on donne un petit coup de pouce pour amorcer le remboursement, etc.
Ça peut être aussi des démarches administratives.
Oui.
Qui sont effectivement nécessaires, parce que les gens sont un peu perdus dans tout ce parcours.
Ah ben absolument, oui.
Alors donc, il est encore temps, peut-être, mais ça sera peut-être pour la bourse l'année prochaine, de faire un dépôt de livres donc pour la prochaine foire de 2025, donc avec sa 20e édition. Donc vous avez parlé de la rue de Metz. Est-ce que vous pouvez répéter effectivement, si ça ne vous ennuie pas, l'endroit exact et les jours?
Alors, les dépôts de livres se font rue du Metz. Donc, tout au fond de la rue, à gauche, en face, le mess des officiers. D'accord? Donc, c'est les mardis matins, de 9h à midi, à peu près, et les jeudis matins, pareil, de 9h à midi.
C'est un travail colossal, les livres.
C'est énorme. Mais ils sont nombreux.
Et oui, je vois ça, parce que
il y a une belle équipe bien
motivée. J'y vais régulièrement, parce qu'en fait, ce que je fais, moi, c'est que j'en achète, et l'année d'après, j'y ramène. Comme ça, on est sûr que ça puisse resservir dans le circuit deuxième, troisième, quatrième main pour les livres.
Et aussi, je tiens à préciser, lorsqu'il y a des personnes qui veulent donner des livres en grand nombre, ça arrive, on peut aller les chercher. On a une camionnette et on a quelqu'un, un monsieur qui fait la tournée, je ne dis pas dans toutes les Ardennes, mais bon, il se déplace assez loin quand même. Donc,
il vous faut un grand nombre de bénévoles?
En tout, on est une quarantaine, 43 exactement. Et puis après, on a des bénévoles. Il y a les bénévoles qui sont là tout le temps, qui s'appellent les Vincentiens. Et vous avez des bénévoles occasionnels, qu'on appelle les Hosanam. Donc on a beaucoup d'occasionnels lors de la foire aux livres, parce que là, on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre.
Parce que les livres, c'est lourd.
Très lourd. Alors nous, ce qu'on privilégie, c'est des cartons de champagne. Vous allez rire, mais le format est idéal, parce qu'on ne met pas énormément de livres dedans. Et le format en taille est suffisamment pour mettre des encyclopédies. Donc ça, si vous avez des cartons de champagne, on est preneur.
Ah non, mais là, on va être écouté à Reims, donc il y aura peut-être des dons, effectivement, de cartons de champagne. On ne sait jamais. Donc, mais merci beaucoup. Merci beaucoup, Étienne. Rappelons que la foire aux livres, donc 19e édition, a lieu place de Nevers.
Oui.
C'est pas très loin du marché central de Charleville.
Tout près.
Donc, le vendredi 25 octobre, de 13h à 20h.
C'est ça.
Le samedi 26, de 9h à 19h. Et le dimanche 27 octobre, de 9h à 17h. Allez-y à l'ouverture, car par expérience, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de monde.
Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et on a quand même une chose qui est bien, je trouve, c'est qu'on ne met pas tous nos livres le premier jour. C'est-à-dire qu'on les met en dessous. Et chaque jour, on renouvelle un petit peu. Ce qui fait que même le dernier jour, il y a encore des belles choses qui peuvent...
Et donc, si j'y vais, je fouille en dessous des tables.
Ah, non, bon, ce n'est pas une incitation à fouiller sous les tables non plus.
En tout cas, merci, bon courage à vous
pour
cette foire au livre.
Merci.
Merci Mounir et à bientôt pour une nouvelle émission Les Ardennes à la loupe.
Les Ardennes à la loupe vous a été présenté en partenariat avec les magasins Janteur, 19 Place du Cal à Charleville-Mézières.
Et à Charleville-Mézières, 94.6, c'est la fréquence pour écouter RCF Reims-Ardennes, mais également en DAB+. C'était Catherine Skevin. Je vous signale un concert, celui de la chorale du Val-de-Muire, un concert qui a lieu ce samedi. C'est au Carré Blanc, c'est à Tinqueux, à côté de Reims. C'est à 20h30 précisément. Vous pouvez réserver les places au 07 83 12 81 16. 07 83 12 81 16. 16, c'est ce samedi 20h30, c'est au Carré Blanc de Tinqueux, ce concert de la chorale du Val-de-Mur. Et lorsqu'on parle de la chorale du Val-de-Mur, bien entendu, on pense à Michel Selvander. Sur RCF, Reims-Ardennes, Regard sur le monde, Jean-François Boulanger, Alexis Claudretz.
Regard sur le monde, une émission proposée aujourd'hui par Jean-François Boulanger.
Jean-François, bonjour.
Bonjour.
Pour regarder sur le monde aujourd'hui, le thème de la chronique, le pouvoir est au bout du fusil, Netanyahou est-il maoïste ? Vous l'avez dit, le titre de cette chronique de ce jour est bien curieux. Sans doute faut-il y voir une part de malice, Jean-François Boulanger, de provocation aussi peut-être. Pouvez-vous nous l'expliquer ?
Alors, ce titre m'a été suggéré en fait par la réponse que, justement, le Premier ministre israélien a fait à la remarque d'Emmanuel Macron à un moment où les troupes de la FINUL, donc les troupes de l'ONU au sud de Liban, étaient touchées par des tirs israéliens, le président de la République française avait affirmé, je le cite, « Monsieur Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU, par conséquent, il ne devrait pas s'affranchir des décisions de l'ONU. » Et Netanyahou avait alors répondu, je le cite également, « Un rappel au président de la France. » Ce n'est pas la résolution de l'ONU qui a établi l'État d'Israël, mais plutôt la victoire obtenue dans la guerre d'indépendance, avec le sang de combattants héroïques, dont beaucoup étaient des survivants de l'Holocauste, notamment du régime de Vichy en France. Autrement dit, la création de l'État d'Israël ne résulterait pas d'une décision prise par le Concert des Nations dans le cadre de l'ONU après la Deuxième Guerre mondiale, mais d'un fait d'armes. Le pouvoir, donc, serait bien au bout du fusil, comme l'affirmait jadis le président Mao.
Il y a donc, Jean-François Boulanger, une divergence nette sur les origines de l'État d'Israël qui oppose Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou et qui trouve tout son sens aujourd'hui, en 2024, parce que l'histoire est ici utilisée soit pour légitimer la guerre totale menée par le gouvernement de Netanyahou à Gaza ou au Liban, ou au contraire, pour la contester.
Tout à fait, et c'est la raison pour laquelle, évidemment, nous devons nous pencher aujourd'hui, dans cette émission, sur les circonstances dans lesquelles l'État d'Israël est né. En commençant par dire que si la région que l'on appelle Palestine n'a jamais été totalement abandonnée par les Juifs après la destruction du Temple de Jérusalem, notamment par les plus pieux, le nombre des Juifs dans la dite Palestine au milieu du XIXe siècle était trop limité pour qu'on puisse envisager l'idée, la simple idée d'un État juif dans cette partie du Proche-Orient. Mais l'antisémitisme, notamment dans l'Est de l'Europe ou dans l'Empire russe particulièrement, a amené certains juifs à s'installer en Palestine. Il y avait une vingtaine de villages juifs comme ça qui se sont créés entre 1860 et 1897. Et le mouvement s'est amplifié avec Theodor Herzl qui publie en 1895 « Der Judenstaat », l'État des Juifs, où il appelle à la création d'un État qui protégerait les Juifs des persécutions dont ils sont victimes à travers le monde. Et le premier congressionniste international a lieu en 1897 à Bâle. Le mouvement s'amplifie à partir de cette date-là. Et pendant la Première Guerre mondiale, il reçoit le soutien des Anglais avec la fameuse déclaration Balfour qui envisage la création d'un foyer national juif. Et un soutien d'autant plus important que le Royaume-Uni va obtenir le mandat de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, sur la Palestine à la fin de la guerre.
Justement, Jean-François Boulanger, vous venez de nous donner la confirmation, j'allais dire, le SDN, c'est bien l'ancêtre de l'ONU.
Oui, c'est ça. Hein. Et c'est bien elle, la Société des Nations, qui donne mandat à la Grande-Bretagne pour mener donc cette terre qu'on va appeler Palestine, tout simplement, c'est le mot donc qu'on lui donne à l'époque, qui appartenait jusqu'alors à l'Empire ottoman, qui vient d'être démantelé à la fin de la guerre, donc la Première Guerre mondiale, vers l'autonomie et peut-être un jour l'indépendance. Mais le vrai problème, c'est indépendance pour qui ? Pour les habitants de cette région majoritaire à l'époque arabe, musulmans et chrétiens, en vertu d'ailleurs d'une autre promesse anglaise qui était celle d'un royaume arabe, elle avait été faite à Laurence d'Arabie, par Laurence d'Arabie, ou promesse d'un foyer national juif en vertu de la déclaration Balfour. Donc, la déclaration Balfour, au moment de la déclaration de Balfour, effectivement, le nombre des juifs est limité, mais il augmente rapidement. En 1914, on comptait 525 000 musulmans en Palestine, 70 000 chrétiens et seulement 60 000 juifs. En 1947, à la fin du mandat britannique, il y avait 1 181 000 musulmans, 143 000 chrétiens et 630 000 juifs. Et les Anglais doivent faire à l'époque, d'une part face à la révolte des Arabes, face à cette augmentation du nombre des colons juifs, mais aussi à l'action d'un groupe militaire sioniste extrémiste qui s'appelle l'Irgun, qui en 1946 a fait sauter à Jérusalem l'hôtel King David, qui était le centre de l'administration britannique, faisant 96 morts. Cet Irgun avait été fondé par Menahem Begin en 1943, et il avait pour objectif la fondation d'un grand État juif sur les deux rives du Jourdain, c'est-à-dire englobant les territoires actuels de l'Israël, mais aussi les territoires palestiniens et la Jordanie. Et donc totalement dépassés, les Anglais décident en février 47 de mettre un terme à leur mandat et de remettre la question de la Palestine à l'ONU qui vient de se créer. Les événements se calment après cette annonce britannique et c'est ainsi que l'ONU est appelée, si je puis dire, à prendre la main.
Et l'ONU justement va tenter de régler cette question.
Oui, tenter, hein, parce qu'effectivement elle crée un comité spécial sur la Palestine, l'UNSCOP, qui va élaborer donc un plan de partage. Il est composé de 12 représentants de 12 pays différents. Le président est suédois. Et parmi les membres, il y a très peu de pays décolonisés à l'époque, hein, rappelons-le. Il y a un Indien, qui est de religion musulmane, un Iranien, et pour le Chili, ça c'est un peu pour la petite histoire, le poète Pablo Neruda. Et dans un souci de neutralité, aucune des grandes puissances n'est représentée. Pour autant, les grandes puissances ne sont pas indifférentes au débat, et notamment l'ambassadeur de l'URSS au Conseil de sécurité de l'ONU, Andrei Gromyko, fait une déclaration qui surprend parce que jusque-là, les soviétiques, sur la question de la Palestine, soutenaient une position pro-arabe, mais surtout anti-britannique. Et là, le représentant soviétique reconnaît les droits des juifs à l'autodétermination et suggère, au cas où la solution d'un État unifié serait impraticable, ce qui va se révéler très rapidement, juste d'avoir recours à la partition.
Juste pour comprendre rapidement, Jean-François Boulanger, comment travaille l'UNSCOP ?
Alors, elle travaille avec un voyage de 5 semaines en Palestine. Elle est reçue par les deux camps, mais elle est reçue très, très officiellement par l'agence juive, qui l'accueille dans ses déplacements, les met au contact avec des colons parlant leur langue maternelle, etc. Par contre, côté arabe, on la boycotte parce qu'on est hostile effectivement à cette idée de partage. Et donc finalement, on arrive à l'idée que la meilleure solution, c'est sans doute la création d'un État juif et d'un État arabe indépendant et avec la ville de Jérusalem placée sous contrôle international. C'est ce plan de partage qu'adopte donc l'Assemblée générale de l'ONU par 33 voix pour, 13 contre, dont l'Égypte et l'Inde, et 10 abstentions, dont le Royaume-Uni, qui ne veut pas se mouiller, et la Chine nationaliste. Et donc, le plan de partage est adopté.
Un plan de partage qui fait débat, Jean-François Boulanger.
Oui, qui fait débat. La grande majorité des Arabes palestiniens, des États arabes, sont opposés à ce plan, qu'ils trouvent injuste. Et depuis 1920, il réclame la fin de l'immigration juive. Et inversement, il est accepté par la majorité des juifs, sauf justement les extrémistes de droite, l'Irgun, qui trouvent qu'il n'y a pas besoin de partager, en gros. Hein. Et donc, c'est dans ce contexte-là que, effectivement, on va assister à une tension internationale très forte.
La suite logique, ça sera malheureusement la guerre.
Exactement, parce que donc Israël déclare son indépendance le 15 mai 1948. Le lendemain, la première guerre israélo-arabe commence. Et donc, durant la période de cette première guerre, du 15 mai 1948 à avril 1949, plus de 350 000 Palestiniens prennent la route de l'exode, fuyant les combats ou expulsés des zones contrôlées ou conquises par Israël. Simultanément, dans la situation des Juifs dans plusieurs pays arabes s'aggrave à la suite d'émeutes contre eux, et donc eux au contraire vont quitter les pays arabes pour rejoindre Israël. Au total, il y en aura à peu près 600 000.
Jean-François Boulanger, par rapport à ce que vous nous disiez au tout début de cette chronique, qui a raison, Macron ou Netanyahou ?
Eh bien, les deux, d'une certaine façon. Juridiquement, la décision appartenait à l'ONU en raison du mandat donné par la SDN. Mais effectivement, il a fallu une guerre pour que cet État trouve sa place dans la région. On remarquera d'ailleurs qu'aujourd'hui, l'action des colons en Cisjordanie, qui grognotent petit à petit les terres attribuées aux Palestiniens dans cette région par le fameux plan de partage, ne reconnaissent pas de facto le plan de partage de l'ONU et qu'ils ont le soutien de Netanyahou.
Merci Jean-François Boulanger.
Et c'est avec le rendez-vous des spectateurs que va prendre fin cette programmation locale. Je vous propose de rejoindre Stéphane Frimbault.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine sur les ondes de RCF Reims-Ardennes, vous donne envie de sortir et surtout d'aller au cinéma. Cette semaine, 4 films ont retenu mon attention et on va commencer avec 2 premiers films. Un premier qui est pas franchement un film avec beaucoup d'intérêt et le deuxième, malheureusement, je ne sais pas si ce film sera projeté sur nos écrans rémois. S'il l'est, ce sera donc au cinéma Opérins, place d'Erlon. Ce film de qui et de quoi s'agit-il ? C'est le film The Killer. Donc pour l'instant, on n'a pas encore l'information de savoir s'il sortira à Reims, malheureusement, car il y a très peu de copies. C'est un film réalisé par John Woo avec Nathalie Emmanuel, Sam Winterton et Omar Sy. Non, si, il est bien à l'affiche de ce film, The Killer. Donc c'est un film de monsieur John Woo. Alors, lors de l'exécution de son dernier contrat, un tueur à gages provoque la cécité d'une jeune chanteuse et pour trouver l'argent nécessaire à l'opération de la jeune femme, justement, il accepte donc un nouveau contrat. Vous connaissez un peu l'univers de John Woo, c'est très fidèle à son univers, c'est assez violent, c'est assez noir, ça s'appelle The Killer et normalement ça devrait sortir au cinéma Opérins cette semaine. Autre film, et là c'est pas vraiment une suite mais c'est plutôt un film qui se passe 10 ans après, le film s'intitule 4-0, c'est donc le titre du film réalisé par Fabien Antoniente avec Gérard Lanvin, Didier Bourdon ou encore Isabelle Nanty. Il faut savoir qu'à l'origine, le film 3-0, qui était le premier film sorti il y a plus d'une dizaine d'années, le film avait récolté 1,2 million d'entrées sur le sol français, ce qui est quand même pas si mal. Mais là, j'ai un petit peu de mal, effectivement, avec cette suite. Non pas que les acteurs ne soient pas convaincants, mais plutôt avec l'histoire. Si vous aimez le foot, si vous aimez un petit peu la comédie, un petit peu franchouillarde, je suis sûr que vous adorerez ce film. Bon, ça n'a pas franchement été mon cas lors des avant-premières. Mais en tous les cas, le film sort cette semaine, je voulais vous en parler. Il s'intitule 4-0, c'est réalisé par Fabien Antoniente et je vous l'ai dit, ça sort cette semaine. Autre film, avant de vous parler d'un film très très attendu pour cette semaine, je vais vous parler d'un film avec l'un de mes acteurs français préférés. Et au départ, il n'était pas vraiment destiné à être acteur puisqu'il est humoriste, il fait beaucoup de stand-up. Il s'agit d'Alvan Ivanov. Alvan Ivanov qui vient ici dans le film Challenger réalisé par Vaillanté Soudjian avec donc Alvan Ivanov, Audrey Pirot et Soso Manès dans les rôles principaux. Le film, de quoi ça parle ? D'un boxeur, Lucas, qui rêve vraiment d'être un grand boxeur. Malheureusement, pour l'instant, il n'est qu'amateur. Il doit se contenter de petits combats plus ou moins foireux. Mais un jour, le destin va frapper à sa porte et le propulse au très haut sommet. Et c'est vraiment un film pour les amateurs de la comédie française, comme vous pouvez l'aimer avec de nombreuses comédies que vous connaissez, ou encore les amateurs de boxe, puisque le réalisateur est vraiment un grand fan de la saga Rocky. Et d'ailleurs, ça se voit dans ce film, puisqu'il y a plusieurs références au film Rocky avec Sylvester Stallone, et notamment dans le premier opus. Donc j'invite tout le monde à aller voir ce film, et comme ça, à déceler un petit peu les petits indices du premier opus de Rocky avec Sylvester Stallone. Mais dans ce film, Challenger, Alvan Ivanov, c'est vraiment mis dans la peau du personnage, puisque Alvan Ivanov, pour jouer le rôle de Lucas, s'est entraîné dans une salle de boxe près de Marseille. pendant près de 6 mois, 5 fois par semaine. Il a vraiment adoré ce sport et c'est pour ça que maintenant, dans certaines émissions de télé, vous avez pu voir qu'il a un petit peu perdu de poids. Pourquoi ? Parce que justement, il a continué la boxe après cet entraînement pour le film Challenger qui sort cette semaine. Et il faut savoir également que ce n'est pas la première collaboration entre Alban Ivanov et le réalisateur du film Challenger, puisqu'il s'est déjà retrouvé par rapport au film La Traversée ou encore Inséparable, qui était à l'affiche avec Ahmed Silla à l'époque. Donc voilà, c'est un film que je vous conseille, je vous en rappelle le titre, il sort cette semaine, il s'intitule Challenger. Dernier film et dernière sélection pour moi cette semaine avec un film très très attendu, on en parle depuis plusieurs mois. La polémique, enfin pas la polémique, mais le désir s'est intensifié depuis la mort du chanteur. Je veux bien sûr vous parler du biopic consacré à Charles Aznavour. Le titre est très sobre, tout comme le film d'ailleurs. Le film s'intitule Monsieur Aznavour. Il est réalisé par Mehdi Idir et Grand Corps Malade, le chanteur, avec notamment Tara Rahim qui est méconnaissable dans ce film. Il incarne ici Charles Aznavour. Vous avez également Marie-Julie Baupe qui incarne ici la chanteuse française qui est vraiment mondialement connue. Je veux bien sûr parler d'Edith Piaf. Et vous avez également Bastien Bouillon dans les rôles principaux. Alors, le film va se concentrer sur une partie bien particulière de la vie de Charles Aznavour. Son début, avec ses polémiques et les problèmes qu'il avait plus ou moins quand il a débuté, puisque c'était un fils de réfugié, et il avait une voix plus ou moins voilée. Tout le monde disait qu'il n'avait absolument rien pour réussir, mais à force de travail et de persévérance et sa volonté hors norme, Charles Aznavour est devenu tout simplement un monument de la chanson française et un symbole de la culture française, avec près de 1200 titres interprétés dans le monde entier et dans pratiquement toutes les langues. Il a inspiré des générations entières. Et pour découvrir ce parcours exceptionnel de ce grand chanteur, je vous invite à voir, mesdames et messieurs, le film Monsieur Aznavour, qui sort bien évidemment cette semaine. Et pour préparer donc justement ce rôle, Tara Rahim a regardé plusieurs heures de documentaires, plusieurs concerts également. Les réalisateurs ont également lu plusieurs biopics afin de se concentrer réellement sur une partie bien précise de la vie de Charles Aznavour. On parle également de sa carrière d'acteur de Charles Aznavour, mais avec un seul film qui a été retenu, qui est Tiré pas sur le pianiste, qui est l'un de ses films les plus connus. Donc si vous voulez vraiment tout savoir sur la carrière de Monsieur Charles Aznavour, allez voir ce film qui est vraiment exceptionnel. C'est l'un des meilleurs biopics sur un chanteur français. Ça s'intitule Monsieur Aznavour et ça sort cette semaine. Dernière petite information, ça c'est pour tous les fans d'un très très grand réalisateur français. J'en vois un juste en face de moi. C'est un réalisateur qui a réalisé plus de 50 films. Eh bien, il a réalisé son nouveau film qui s'intitule Finalement. Il sort le 13 novembre prochain. C'est un nouveau film de Monsieur Claude Lelouch avec notamment Kad Merad, Elsa Ginberstein, Sandrine Bonner et Barbara Pravi dans les rôles principaux. C'est une pseudo-comédie musicale, on en reparlera très très prochainement sur les ondes d'RCF, mais notez bien déjà sur vos agendas, le nouveau film de Monsieur Claude Lelouch sortira sur les écrans le 13 novembre prochain avec un titre déjà très emblématique qui s'intitule Finalement, j'espère que ce ne sera pas son dernier film. Voilà, quelques secondes pour vous donner les films que j'ai sélectionnés pour vous cette semaine. Challenger avec Alban Ivanov, il y a eu également 4-0 de Monsieur Fabien Antoniente avec Gérard Lanvin. On a parlé de The Killer qui sortira normalement au cinéma Opéra et on a terminé avec l'excellent biopic sur Monsieur Charles Aznavour qui s'intitule très sobrement Monsieur Aznavour. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, d'ici la sortie. Allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.
Merci Stéphane Frimbon. On rejoint Frédéric Mounier tout de suite pour les racines du présent et les questions des grands hommes et des grands morts de la Troisième République.